Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 juin 2023. Il sont 11h et vous êtes sûrement en place sur Canal FM Lomé ici, mais également sur Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix, La Voix des Plateaux à Takpamé, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio Sama FM à Baga Niamtougou, Radio Daoula Bassin, Radio Courtoisie à Dapan, mais également Eben Radio, Radio Gameli ou toutes autres applications numériques sur tous les continents de par le monde. Nous vous saluons, vous toutes et vous tous, et nous saluons également, remercions les techniciens qui réalisent l'émission, Victor Bekoku, Michel Tomega et Jérôme Kodjou Akoucha. Deux confrères aujourd'hui, dont un est déjà là, deux personnes ressources déjà à nos côtés. C'est vous dire que nous allons parler culture et art, vous le savez déjà, nous sommes mardi, mais nous allons parler également d'un média, la TVT, dans son nouvel habillage et sur son nouveau plateau, et également l'agriculture avec le chef de l'État qui était au contact des producteurs agricoles dans une ZAP, zone d'aménagement agricole planifié dans la V. Et comme nous savons le faire, nous allons partir de cette visite pour revisiter l'agriculture togolaise dans ses ambitions et ses réalités. Et puis aujourd'hui, nous allons parler également d'un corps de para-juristes. Un corps que nous voyons un peu dans le cercle de la justice. Et voilà et le menu et juste que nous découvrions la pensée du jour. Il peut arriver que nous tombions et nous tombons souvent, mais le sage nous dit 7 fois à terre, 8 fois debout, pour dire Eric Johnson que nous tomberons mais nous nous relèverons toujours.
Toujours, et c'est ce qu'il faut forcément, parce que vous savez comme on dit chez nous, quand on tombe, il faut...
Chez toi où?
Écoute,
le Togo est petit, mais
chez moi au Togo, okay. En Afrique.
Okay.
Quand on tombe, il faut toujours se relever, parce que les défis qui sont devant nous sont assez grands, oui. Et il ne faut pas être fataliste. Il faut toujours croire en ce que nous faisons, il faut savoir où nous allons et comment faire en sorte que lorsque nous tombons, nous puissions nous relever très tôt et gaillardement.
Merci. Nous tomberons 7, 10, 100 fois, mais nous nous releverons 10 fois, 1000 fois, 1 million de fois. Et le « nous » là, c'est nous individuellement ou bien nous collectivement. Et c'est nos parents, nos voisins à Chanti qui nous l'enseignent. Mmh. Okum à Pimbiba, 1000 tomberont, mais 10 000 se lèveront pour que la bataille de la vie et du développement continue toujours. Avant d'aborder nos sujets, je vous présente nos invités et naturellement, je commence par la femme, Maître Yawa Amedro. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes huissier de justice près la cour d'appel et le tribunal de première instance de première classe de Lomé.
Exactement.
Merci de nous honorer de votre visite. Vous êtes avec votre confrère, Maître Félix Ligbezim. Bonjour, Maître.
Oui, bonjour, Sass.
Vous êtes juriste d'affaires, cyberjuriste en droit d'éthique, formateur, mais vous êtes huissier de justice.
Oui, effectivement.
Eh bien, nous avons souhaité vous avoir à nos côtés à l'occasion d'une journée, de votre journée internationale, journée mondiale. C'était en fait le 8 juin dernier. Il s'agit toujours de la journée mondiale de l'huissier de justice, mais pour des raisons propres à vous, vous avez choisi de commémorer ou bien de célébrer votre journée en différé. Alors qui peut nous dire pourquoi vous avez choisi de célébrer votre journée en différé, Maître Ligbezim?
Oui, effectivement, nous avons choisi de célébrer notre journée en différé. Parce que l'UIH, l'UI, UHJ, c'est-à-dire l'Union internationale des huissiers de justice, qui est une organisation internationale non gouvernementale créée en 1952 et qui compte 103 membres, par exemple, donc dans 88 pays, nous a donné l'opportunité, nous donne l'opportunité et de célébrer cette fête-là en différé. Et ça dépend aussi de l'agenda de chaque pays ou bien de chaque chambre, de chaque État. Et chez nous ici, nous avons eu des fêtes que vous-même vous connaissez et cela ne nous a pas permis de fêter cette fête-là plus tôt. Et c'est pourquoi nous, pour ne pas être en marge, nous avons choisi le 30 mars pour la fête, le vendredi 30.
Je veux comprendre, maître. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes 103 membres dans 88 pays. Qu'est-ce que ça veut dire, 103 membres?
103 membres dans 98 pays. Oui. Cela suppose qu'il y a des adhésions individuelles. Au-delà des pays, il y a des adhésions individuelles. C'est pourquoi c'est ce qui ramène les adhérents à 103 membres.
Ok, mais ça veut dire que c'est les chambres du CIE qui sont membres de l'Union internationale des huissiers de justice.
Et en plus de ça, il y a aussi des organisations qui s'affilient à l'Union internationale aussi.
Okay.
C'est pourquoi le nombre est porté à 103.
Ça veut dire que dans les pays, on peut avoir des chambres du CIE et d'autres associations du CIE.
Voilà, qui peuvent s'affilier.
Très bien. Merci.
Quelqu'un a dit qu'il comprend lentement quand on lui explique longuement.
C'est moi.
Eh bien, la 18e journée mondiale de l'huissier de justice qui va être célébrée au Togo en différé le 30 juin, vendredi, en fin de semaine, va porter sur le thème « L'huissier de justice et les médias, la force de la communication ». Nous allons revenir. Mais puisque vous êtes des huissiers avec nous, Maître Amegro, vous voulez nous dire c'est quoi un huissier de justice et quelles sont vos charges en condensé, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, Monsieur Sass. Merci beaucoup, Monsieur Sass. L'huissier de justice, pour dire en termes simples, je dirais c'est l'auxiliaire de justice ou le juriste le plus proche du justiciable ou bien le plus proche de la population. C'est en termes simples pour que le commun des mortels puisse comprendre, c'est le juriste qui est le plus proche de lui. Mais étant une profession réglementée, il y a l'article 1er de notre texte de loi qui date du 30 décembre 2011 qui le dit en termes clairs que l'huissier de justice est l'officier public et ministériel chargé de la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires et de l'exécution des actes publics que sont les jugements et les actes notariés revêtus de la formule exécutoire. Bon, ça c'est la définition de notre texte de loi. Mais en termes plus simples, comme je l'ai dit au départ, c'est le juriste qui est plus proche de chez vous, qui peut vous conseiller et vous guider dans la protection de vos intérêts et de la défense de vos droits.
Merci. Il y a les textes, vos statuts, mais en français facile, l'huissier de justice, c'est l'auxiliaire de justice ou bien le juriste le plus proche
de vos
du justiciable. Oui. Alors justement, quelles sont vos charges? Un huissier de justice, qu'est-ce qu'il ou bien qu'est-ce qu'elle fait? Puisque j'ai une femme et un homme à mes côtés. Maître Ligbezim.
Oui, merci. Ça, c'est... L'huissier de justice a des attributions. Et il y a ce que nous appelons des attributions monopolistiques et des attributions qu'il partage avec d'autres corps de justice. Alors, parlant des attributions monopolistiques, on dit qu'il est le seul qui a le monopole de la signification des actes. Il signifie les actes judiciaires, extrajudiciaires. Il fait quoi encore? Il notifie tout ce qui est...
décision de justice.
Il fait les notifications prescrites par la loi et les règlements. Lorsque le mode de notification n'a pas été précisé, il procède à l'exécution des décisions de justice et tout acte revêtu de la formule exécutoire. Et notamment les actes notariés, par exemple, lorsqu'il s'agit de l'exécution de cette décision, c'est lui qui s'en occupe. Il possède aussi au recouvrement des créances. Et ça, il est le seul qui a cette compétence. Le recouvrement des créances, que ce soit amiable ou judiciaire, c'est l'huissier de justice qui le fait. Et concurremment avec d'autres officiers ministériels, il procède aux ventes volontaires publiques des meubles et effets mobiliers corporels. Et il assure aussi les services intérieurs, près les cours et les tribunaux. C'est-à-dire que lors des audiences solennelles ou ordinaires, quand vous allez au tribunal, vous assistez à une audience, c'est lui qui s'occupe de la discipline, mais sous l'autorité du président d'audience. Et il fait les significations des actes avocat-avocat. Et pour finir, je dirais que il fait aussi des constatations matérielles, les constats, lorsqu'il a été requis par des justiciables ou bien requis par le juge. Donc ce sont globalement ses attributions.
Voilà, nous allons découvrir le dossier de justice et ce qu'il fait, ce qu'elle fait quand c'est une dame. Mais Maître Amédro, il nous arrive souvent de faire des confusions de genre. Est-ce que on peut, puisque ça arrive, que nous confondions l'huissier de justice au magistrat, qu'on confonde l'huissier de justice
au notaire,
à l'avocat et même au commissaire priseur. Alors, quelle est votre place exacte par rapport à ces corps de métier pour que nous évitions de continuer à faire ces erreurs de confusion?
Ok, merci beaucoup, M. Sass. Je dirais que l'huissier de justice, comme l'avocat, par exemple, comme le notaire, comme le commissaire priseur, sont appelés des auxiliaires de justice. L'huissier de justice, l'avocat, le notaire, bien sûr, ce sont des corps indépendants, mais avec des attributions spécifiques qui collaborent au bon fonctionnement de la justice. Ce sont des auxiliaires, donc les avocats, les huissiers, les notaires, les commissaires priseurs, qui sont ensemble des auxiliaires de justice inféodés aux magistrats qui, eux, sont des fonctionnaires de la justice. Donc, les huissiers, nous, comme le confrère vient de le dire, il vient de préciser certaines de nos attributions, les huissiers exercent différemment des avocats qui, eux, sont des conseils et qui peuvent représenter leurs clients lors des procès. Les huissiers n'interviennent pas dans le procès, mais les avocats sont des conseils et des représentants de leurs clients. Les huissiers également sont différents des notaires qui, eux, interviennent dans leur domaine spécifique également. Ils délivrent des actes authentiques. Ils procèdent à des immatriculations des immeubles. Ils interviennent dans la création des sociétés.
Oui, un complément, maître.
Oui, ils s'occupent aussi de la liquidation des successions.
Voilà. Donc, et par rapport au commissaire priseur?
Au commissaire priseur, eux, ils font des prisés lors des ventes forcées.
Donc, c'est ce que je disais tout de suite. Nous avons des attributions concurrentielles. Donc, ils font des ventes judiciaires. C'est leur monopole. Ils font des ventes judiciaires, mais nous, avec eux, qu'est-ce que nous faisons ensemble? Nous partageons les ventes volontaires. Ça veut dire si M. Sass veut vendre certains biens de son salon, par exemple, il peut m'inviter, même ici, il peut m'inviter de venir. Mais si on saisit le salon d'une tierce personne, l'huissier ne peut pas vendre. C'est eux qui sont obligés, parce que ça devient une vente judiciaire.
Merci pour ces précisions. Maintenant, dites-nous, comment devient-on huissier de justice? Est-ce que Eric Johnson peut se lever pour dire qu'il est fatigué d'être journaliste et que demain, il devient huissier de justice? Maître Legbezi?
Oui, d'accord. Merci, Sass. C'est une très belle question. C'est vrai qu'on ne se lève pas comme ça pour devenir huissier de justice. Mais pour devenir huissier de justice au Togo, il faut être togolais.
D'abord.
Et ensuite, il faut être majeur. Il faut être majeur. Vous êtes majeur, vous êtes togolais, vous pouvez être huissier de justice. Vous devez être de bonne moralité. Vous devez être de bonne moralité. Vous devez aussi, lors d'une activité précédente, comme vous venez de le dire, dans son activité, ne pas être faire l'objet de sanctions disciplinaires ou bien administratives. précédemment dans votre profession que vous avez exercé précédemment. Mmh. Et ensuite de ça, vous devez, et comment l'appelle-t-on, avoir un master ou bien l'ancienne maîtrise classique que nous connaissons, en droit. Mmh. Et c'est ça la spécificité en fait. Mmh. Et en fin de compte, quand vous devez avoir ce qu'on appelle un certificat d'aptitude à la profession.
Qui est délivré par
le centre de profession des formations de justice. Mm-hmm. Il y a un centre de formation des professions de justice qui est créé, qui est à l'université actuellement. Mm-hmm. Mais la précision que je voudrais faire, c'est que pour le moment, ce centre n'est pas encore ouvert aux huissiers. Mm-hmm. Aux huissiers, mais les autres corps, il y a déjà les greffiers qui sont formés là, il y a les magistrats qui sont formés là. Mais pour le moment, le centre n'est pas encore ouvert aux huissiers.
Merci. Pour être juste, il faut d'abord étudier, avoir son ancienne maîtrise ou le master au moins en droit et faire une formation spécifique. Et puis, il semble que c'est votre charge, vous êtes délégué par le président de la République qui vous nomme par décret.
Effectivement. Effectivement, c'est l'huissier de justice est nommé par décret. Pris en conseil des ministres. Mm-hmm. Il est nommé par décret, pris en conseil des ministres. Donc l'État crée des charges qu'il dispose, qui sont là, disponibles, supposons, dans ce ressort de Lomé. Nous sommes nommés près les tribunaux, en fait. Mm-hmm. Notre domaine de compétence, c'est près les tribunaux. Donc si l'État crée des charges près le tribunal de Lomé maintenant, si ces charges sont disponibles, on les attribue à des arbitres.
Merci. Venons-en maintenant à votre journée internationale. J'ai annoncé tantôt le thème que je rappelle volontiers. C'est l'huissier de justice et les médias, la force de la communication. Que devons-nous comprendre par ce thème sur lequel vous bâtissez votre 18e journée, votre 16e journée plutôt, Maître Amédiro?
Merci, Monsieur Sass. Cette 16e journée mondiale est placée sous le thème du siège de justice, la force de la communication, parce que nous savons, vous le savez également, que la population a une image négative des huissiers de justice.
Ah, vous en êtes conscient vous-même?
Nous en sommes conscients.
Okay.
Et nous dirons que ce n'est pas la vraie image, en fait. Et nous essayons, à partir de cette 16e journée, essayer d'approcher les médias, essayer de passer par les médias pour donner, pour corriger cette image, pour donner la bonne explication à la population et pour les inviter aussi à approcher les huissiers, à les solliciter pour que nous puissions contribuer à la paix sociale, contribuer à les aider selon les attributions qui lui ont été conférées par les autorités.
Merci. Vous voulez aller au contact vous-même, dire ce que vous êtes, ce que vous n'êtes pas, les préjugés et consorts. Mais au-delà de cette de ce que j'appelle campagne médiatique, quelles sont les autres activités que vous avez au programme de votre 16e journée, Maître Legbezi?
Oui, et vraiment, c'est une journée qui est pour nous une occasion d'abord entre nous-mêmes de nous retrouver, parce que les huissiers, c'est vrai, on est dans nos cabinets avec beaucoup de charges. On veut satisfaire le justiciable, mais on ne se satisfait soi-même. Ça sera une occasion de rencontrer, d'échanger avec les entreprises, les administrations et le monde judiciaire, les acteurs du monde judiciaire. Et nous avons un programme qui est très, 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 très dense. Mm-hmm. Déjà le 29, nous voulons poser un acte citoyen. Et nous allons des plans. Nous avons des plans que qui seront implantés dans un espace que le maire de la commune 1 nous dotera. Commune 1 nous disposera et nous allons complanter des arbres là-bas.
Combien?
Et non, chaque huissier, deux arbres.
Et vous êtes combien d'huissiers?
Nous sommes 141 huissiers actuellement, donc j'ai presque une forêt. Hein?
282 arbres au moins.
Au moins. Ok. Voilà.
Ensuite?
Et ça se fera, comme je le dis, le jeudi soir, le 29 à 16h. Et le 30, la journée va commencer à partir de 8h. 8h30, il y a l'arrivée, l'installation et la cérémonie d'ouverture va commencer à 9h, à 9h précisément. Et il y aura, comment appelle-t-on, la cérémonie de, nous attendons plusieurs autorités, comme vous le savez bien, du monde judiciaire, et les autorités administratives, notre ministre de tutelle même sera là, il est invité à être là. Et après la pause café, nous allons recevoir le thème. Hein. Ce thème nous sera développé par votre ministre de tutelle, le professeur Emérite Ayouada, et qui va nous développer ce thème parce que ce thème il est très important. Nous connaissons la force des médias et c'est pourquoi nous voulons que dans la fixation des pensées, vous puissiez agir pour que cette mauvaise image qui est donnée à Lucien
il faut bien le voir
voilà, puisse être
cette conférence qui se donne par notre ministre Ayouada au cours de la cérémonie officielle de lancement et après cela
nous allons aller au déjeuner, nous allons revenir pour la pause café et nous allons revenir pour les débats. Après les débats maintenant, cette journée est finie. Mais ce n'est pas encore fini. Nous sommes là jusqu'au soir. Il y aura un déjeuner qui sera offert par la Chambre nationale des huissiers. Et après, nous aurons une soirée récréative. Comme je le disais, on n'a pas l'habitude de nous voir. Donc, et le lendemain, nous serons toujours à Nero. Nous allons des sites touristiques à voir. Il y a plusieurs lieux qui nous ont été présentés par monsieur le maire. On va visiter les fresques murales qui retracent l'histoire l'histoire du nouvel an en Pays Gain. Nous allons aussi la visite de la forêt de la prise de la première pierre de la pierre sacrée où seuls les initiés pourront y entrer. Nous qui ne sommes pas les initiés, peut-être nous verrons ça de loin. Et il y a la visite des palais royaux, la visite du jardin botanique du milieu et après un déjeuner sur une plage pour nous séparer.
Merci voilà. À vous donc, merci. Maître Amedro, maître Légozine, de nous partager avec nous ce que c'est huissier de justice, ce que vous êtes, ce que vous n'êtes pas et un avant-goût de votre 16e journée.
J'ai voulu compléter un peu relativement au programme. C'est que dans la journée du vendredi 30, dans la matinée, il y aura également une audience publique gratuite où toute la population est invitée à approcher les huissiers dans la cour de la mairie pour recueillir leurs doléances et voir dans quelle mesure aider ceux qui ont des problèmes et qui n'ont pas et qui s'imaginent qu'il faut forcément des moyens financiers avant d'approcher les huissiers. Donc ça se fera à partir de 8h à 10h, un peu avant le début des travaux.
Merci. Il y a beaucoup à dire sur vous, non. Mais souffrez non. Que... Non. Mais
quand même, je suis resté...
Mais quand même, je m'en vais.
Quoi?
Je m'en vais. Je suis en retard 7, mais je suis là depuis. Il y a des questions que je peux poser.
Oui, mais on t'a pas encore interdit de poser des questions.
Mais il veut déjà quitter ce volet-là.
Je suis resté un peu sur ma soif parce que dans le programme, j'ai pas vu forcément les médias avec vous. Parce que vous avez fait concocter un programme où vous faites des activités. Le thème général, c'est les médias et les huissiers de justice et les médias, je crois. La force de la communication.
Oui,
mais
c'est
là, dans
c'est
le
vrai,
programme,
c'est vrai. Il y a des médias sont invités.
Oui, invités pour couvrir ce que vous faites. Jusque-là, c'est pas encore cela pour nous. Puisque vous voulez qu'on arrange l'image tronquée qu'on a de vous.
Effectivement.
Mais là,
effectivement.
Je n'ai pas vu. Enfin.
Ils ont déjà choisi leur média là.
Non, ce n'est pas ça.
Non, ce n'est pas ça.
Je pense que nous sommes là. Pour moi, c'est qu'il y aura quand même une période où vous allez être avec la presse, échanger avec la presse, puisque c'est à nous que vous allez présenter votre vraie image.
Ok, merci. Il a annoncé un temps, il nous a rejoint. Isidore, bonjour.
Oui, merci de m'avoir annoncé finalement et de me permettre de poser la question qui me tient tant à cœur. Il avait effleuré et dit que concurremment, les huissiers peuvent procéder à la vente des meubles. Qu'en est-il des immeubles? Notamment, est-ce qu'un huissier peut délivrer un reçu de vente de terrain, et au cas où ce terrain venait à avoir des problèmes, comment faire? Même si je parle de mon cas concret, j'ai saisi votre la chambre qui est basée au niveau de Dijolé, en face de vous comprenez à peu près Antigang, mais ça plus de 4 ans 5 ans j'ai pas eu de suite.
Ok. Maître Léguizi, oui, Maître Amédio, okay, est-ce qu'un huissier de justice est habilité à vendre un immeuble et à délivrer un reçu de vente?
Je réponds
à Isidore.
À Monsieur Isidore. Alors, toutes nos excuses d'abord par rapport à la plainte qui n'a pas encore trouvé d'issue. Je pense que c'est l'occasion. Hein. Elle trouvera une issue favorable.
4 ans maintenant, après.
Plus de 5 ans.
Ok.
Il n'est pas trop tard de bien faire. Hein. C'est le moment. C'est le moment de Dieu est le meilleur. Donc, je disais que, effectivement, lorsque la consoeur a défini les attributions de chaque corps de métier, il a parlé des notaires. Il a dit que c'est eux qui s'occupent des transactions immobilières. Donc, les transactions portant sur des immeubles relèvent de la compétence exclusive des notaires. Donc, les huissiers n'ont pas à connaître des transactions immobilières. Si j'ai à répondre à M. Isidore.
Et au cas où un huissier venait à enfreindre la loi, qu'est-ce que vous faites?
Mais la loi, on dit la règle de droit, elle est générale et impersonnelle. Ouais. Lorsque quelqu'un enfreint à la loi, si c'est un huissier, il y a des sanctions disciplinaires.
Okay.
Il y a ce que nous avons mis en place aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle un conseil de discipline qui statue sur les errements de certains des huissiers.
Je vous ferai copie de la lettre.
Merci. Merci. Une auditrice, hein, pas des moindres, qui nous suit, dit que vous devriez, au nom de votre corps, présenter même des excuses en prélude à cette émission, parce que beaucoup d'entre vous collectez les loyers que vous gardez par devers vous, que vous bouffez et dont vous privez les propriétaires légitimes, pour dire que Maître Léguizi, Maître Amédio, vous-même vous l'avez dit, mais il y a beaucoup de préjugés négatifs contre vous, à vous de faire en sorte que par pédagogie, vous expliquiez qui vous êtes et qui vous n'êtes pas. Si d'aventure, il devrait avoir des brebis que je n'ose pas qualifier de galeuse dans vos rangs.
Il faut faire le ménage.
Le courage de faire les ménages. C'est nous qui le ferions à votre place.
Effectivement. Et comme nous l'avions dit, il y a ce qu'on appelle notre conseil de discipline est à pied d'œuvre. Il y a des décisions depuis que la chambre nationale actuelle, les membres de cette chambre est mis sur pied. Il y a eu plusieurs décisions qui sont rendues dans ce sens, pour sanctionner des confrères qui ont des comportements qui n'honorent pas, qui n'honorent pas la profession. Et comme vous venez de le dire, dans chaque corps, il y a des brebis galeuses. Et c'est même la raison pour laquelle, effectivement, notre image aussi se dégrade, malgré même les préjugés, notre image se dégrade de jour en jour. Et notre objectif, par ces sanctions, c'est de soigner cette image. Et comme nous l'avions dit, nous avons aussi besoin de vous.
Merci. Je vais rapidement.
Souffle, Eric. Ils ont dit qu'il y aura audience publique à Nehoy, puis les cabinets sont ouverts. Oui. Il est 11h30. Souffle qu'on avance sur les autres sujets qui sont également importants. Oui. Et le premier sujet, c'est ce qui concerne nous-mêmes, le corps des médias, notamment la TVT. La TVT qui arbore un nouvel habillage depuis hier avec un nouveau plateau. Tout cela a été dévoilé par le ministre Ayoade en charge des médias hier. Et là-dessus, revue de presse avec l'évêque de la nation qui annonce le ton. La télévision togolaise dévoile son nouveau logo et son plateau flambant neuf. L'Union lui écrit nouvelle identité visuelle et plateau, journal télévisé moderne pour la TVT. C'est dans le cadre du processus de modernisation des médias publics et de la télévision togolaise qui va célébrer son jubilé d'or dans quelques semaines. Mais la manchette trouve lui à la page 6. Nouveau logo de la TVT à peine révélé et déjà tant décrié. Pour la manchette, beaucoup de personnes trouvent le nouveau logo pas fameux, pas du tout ingénieux, rien d'esthétique. Liberté qui ironise un peu à la page 5 et écrit la TVT comme elle va. Eh bien, la TVT telle que le nouveau logo, le nouvel habillage, le nouveau plateau ont été dévoilés hier. Et nous l'avons vécu en direct. Moi, j'ai suivi le journal de 20 heures. Alors, vos appréciations.
Le journal de 20 heures.
Sur la TVT.
D'avant-hier ou d'hier?
Hier.
Hier, avec beaucoup de situations quand même difficiles, puisque déjà, ils ont un problème de câblage de son. Parce que c'est un nouveau plateau, il faut le reconnaître, mais on reconnaît quand même aussi les aléas du direct, qu'il ne faut pas oublier. Lorsque vous mettez en place ce plateau-là, il faut en même temps mettre en place plusieurs micros pour que lorsque le principal ne fonctionne pas, pour que les autres puissent relayer, ce qui n'a pas été fait. Mais je crois que après, ils ont même reçu Madame Myriam Dossou hier. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la présentatrice était en face de nous, tandis que la ministre nous faisait un peu dos. Alors là, il faut rapidement corriger. Oui, il faut déjà corriger cela parce que c'est un problème au niveau de la réalisation. Lorsque vous voulez faire paraître l'invité, automatiquement, l'invité doit faire face au public et non faire dos au public. Parfois, lorsque vous êtes nombreux sur le plateau, on peut faire une image d'ensemble. Là, c'est encore acceptable, mais lorsqu'ils sont deux, je crois qu'il y a de petits soucis. N'empêche, la TVT est en train de faire une innovation. Je crois que cela vaut la peine, parce que nous avons connu le même plateau depuis pratiquement notre naissance et jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose.
Ce plateau date de 91.
Ça a changé.
Oui, ça a changé, mais ce que nous avons toujours, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, avec cette innovation, je pense qu'il faut le faire. Et il faut encourager plutôt les autorités à faire mieux, parce qu'il ne faudrait pas uniquement garder ce plateau-là pour toutes les émissions, et surtout ça.
Alors justement, lorsqu'il dévoilait le nouvel habillage, le nouveau plateau, le ministre Ayoadan donnait la preuve d'un engagement continu envers la modernité, authenticité et innovation. Le nouveau logo donc de la TVT qui est agrémenté d'une étoile symbolisant la réussite, l'élégance et le rayonnement. Isidore, donc c'était sur appel à concours que ce nouveau logo a été choisi avec toute la modernité, les innovations, l'ambition. Bon, le démarrage a connu quelques ratés hier. Espérons qu'au cours de la journée, ça va être corrigé. Mais quelle est ton appréciation de ce que le ministre a annoncé avant les incidents techniques d'hier?
Non, en dehors des incidents techniques, je trouve gravissime, puisque une télé de cette envergure devait faire l'essai avant d'être câblée. Ça, c'est gravissime. Il faut avoir le courage de le dire et l'honnêteté de le reconnaître. C'est toute l'image du Togo, parce qu'ils sont câblés. À l'international, on voit ces ratés, les problèmes de câblage et les problèmes d'orientation des caméras. L'invité que vous présentez ado, mais on n'est plus dans les années 70. Ça, tout étudiant non, de la première
avant, année. Mais avant, Isidore, lorsque nous faisions déjà le théâtre à l'école primaire, on vous enseignait de ne jamais tourner d'eau
publique. Donc, bref, ça, c'est la première remarque. Même avant de revenir, même le plateau, on a vu des plateaux. Hein. Moi, je m'attendais à quelque chose de plus extraordinaire qu'on doit nous présenter, mais on est resté toujours dans la même logique. Je me demande s'il y a un jury qui a planché sur les candidats à retenir pour surtout le logo. Le logo, je ne vais pas parler de moi, je parle de ma femme qui a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas attrayant, c'est terne, et même si les couleurs rouge, jaune, vert ont été gardées, mais c'est comme c'est de l'amateurisme. Je ne m'en prends pas aux responsables ou aux ministres, mais si c'est un jury qui avait sélectionné ce logo-là, j'avoue que les enfants, ceux qui ont fait du graphisme, vous diront que mais ce logo-là, c'est un logo de bas étage. C'est un logo de bas étage. Certains vont jusqu'à demander que si c'est ça coûte 2 millions, il faut saisir l'Assemblée nationale pour qu'on puisse restituer ces 2 millions.
Oh là là.
Il y a une chose. On a voulu évoluer. On a voulu innover. Mais si l'innovation n'est pas attrayante, ça ne vaut pas la peine.
Non, peut-être que si...
Le logo est déjà fait. On ne peut plus remplacer. Mais peut-être on peut réajuster, réaménager le plateau.
Je pense que lorsqu'il y a un concours de ce genre, on demande toujours aux participants d'expliquer ce qu'ils ont proposé. Et je crois que ça joue également sur le jury qui doit sélectionner. Lorsque vous faites... Même si le logo n'est pas joli, n'est pas attrayant, mais vous arrivez à meubler ça d'explications. Et là, vous savez, désormais, la TVT a une charte graphique. Je crois que celui qui a remporté, l'agence qui a remporté le concours, a expliqué exactement ce que le ministre est en train de nous dire par rapport à l'étoile, par rapport aux lettres et tout ça, qui sont dans des couleurs différentes de notre drapeau national. Je crois que tout ça, c'est l'agence qui a donné ces explications. Maintenant, il y a aussi l'ambition de celui qui lance le concours. En lançant le concours, qu'est-ce qu'il a demandé de faire? Et je crois que c'est avec tout ça que le jury choisit le meilleur logo. J'ai vu sur la toile des gens qui ont fait des propositions de logo, oui, mais qui n'ont pas pu participer au concours. Et donc, on a choisi ce qu'il y avait de mieux.
Non, parlons chose de visuel, hein. Ce ne sont pas de la littérature. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'élégant dans ce logo? TV, barré comme ça.
Je présume c'est tellement simple. La TVT et le ministre doivent également être à l'écoute des réactions. D'aucuns diraient que nous sommes 8 millions de Togolais selon le dernier recensement et nous sommes 8 millions d'arbitres. On peut dire que nous sommes 8 millions de jurys à choisir. Mais sûrement que le ministre et la TVT restent ouverts à toutes les critiques. Peut-être qu'il y a des ajustements à faire, des correctifs, mais déjà que le dispositif marche.
Pour le logo, c'est intangible.
Oui, parce que c'est.
On ne peut plus changer.
On ne peut plus changer, c'est bon.
Merci. Bon. Nous allons évoluer, nous, toujours avec notre traditionnelle page des arts et de la culture. Nous allons parler de cinéma. Avec la 7e édition de la semaine du cinéma qui a été lancée par le ministre Lamadoku hier, il y a quelques jours. Oui. Ce sera du 22 au 29 juillet. L'Union nous en parle.
Oui. Oui, effectivement, au cours d'une conférence de presse, le ministre en charge de la culture et du tourisme a lancé la 7e édition de la Semaine nationale du cinéma togolais. Et je crois que le ministre a donné le thème général de cette semaine-là.
Le thème, justement, c'est « Contribution des cinéastes au processus de réforme du cinéma et de l'audiovisuel togolais ».
Oui. Et ça veut dire que le cinéma togolais a des problèmes. Et si vous avez des problèmes, il faut que vous-même vous participiez à l'élaboration d'une nouvelle stratégie pour que vous puissiez sortir de votre léthargie. Là, le cinéma togolais, aujourd'hui, il faut le reconnaître, ce cinéma-là n'est pas forcément dans les starting blocks internationaux. Ce cinéma-là...
Il n'est pas très exportable.
N'est pas exportable en tant que tel. Tout simplement parce que il y a des problèmes, surtout financiers, il faut le reconnaître. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle approche du ministre de la Culture qui veut que le cinéma soit une entité à part pour être financé au-delà de l'ensemble de la culture, puisqu'il y a le fonds d'aide à la culture qui a été élaboré. Maintenant, il y a un fonds pour le cinéma. Nous osons croire qu'avec ce fonds, les cinéastes, sinon les réalisateurs, auront plus de moyens pour proposer des films exportables. L'autre truc que le ministre a dit la dernière fois, c'est qu'il y a un pays invité d'honneur qui est le Niger. Donc le Niger est notre pays d'honneur parce que ce n'est pas seulement le cinéma togolais qu'on va promouvoir pendant cette semaine, mais également le cinéma africain. Et comme quoi, il faut qu'on soit assisté, qu'on soit soutenu par d'autres pays, et donc le Niger est notre pays hôte. Mais moi, ce que j'ai remarqué dans tout ceci, c'est que ceux qui font le cinéma ne sont pas beaucoup représentatifs dans ce genre de lancement. Il fallait qu'ils viennent, qu'ils disent ce qu'ils ont sur le cœur, quels sont leurs problèmes dans leur domaine, pour que déjà, l'on commence par réfléchir. C'est vrai qu'il y aura sur le truc un programme qui sera concocté pour que chacun puisse parler, dire les choses, mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire un travail en amont avant d'arriver à cette semaine.
Probablement que le ministre a aménagé une tribune pour rencontrer les premiers acteurs du cinéma.
Je peux placer un mot.
Une seconde, mais juste pour dire qu'au programme de la 7e édition, comme l'a été annoncé, il y aura des ateliers, des projections de films et bien d'autres activités visant à valoriser le cinéma togolais. Il y aura également la formation de 10 auteurs et scénaristes togolais, la formation de 12 producteurs en technique d'élaboration de plans d'affaires, l'organisation d'un marché de films et de l'audiovisuel, dont au total 56 films, dont 54 produits par des Togolais et 2 films venus du Niger. Voilà l'agenda et le menu de l'édition. Et Isidore ?
Bon, je n'avais pas assisté à cette cérémonie puisque je n'y ai pas été invité. Et le compte rendu de mon confrère, c'est ce qui me fait un peu marrer. Parce que quand on ne associe pas ceux qui aujourd'hui représentent le cinéma togolais comme Steven Aff et autres, je ne sais qui iront parler au nom du cinéma togolais. Je reste nostalgique. J'ai toujours un regard très critique des choses pour que les choses puissent avancer. Et qu'on ne me méprenne pas. Je reste nostalgique du passé. Avant, il y avait Cinéato. Quelles sont les structures mises en place pour accompagner les cinéastes? Je reste encore nostalgique de ça. Il y avait Cinéato qui accompagnait dans les années 70-80 les cinéastes. Je reste encore nostalgique des productions qu'on avait eues.
Mais déjà, avec le Cinéato, il n'y avait pas de production.
Il n'y avait pas de production, mais il y a déjà les structures. Oui. C'est ça la critique que je voulais apporter. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner ces cinéastes aujourd'hui et quand Cinéato n'existe plus? Bref, vous vous souvenez de ça, les 3 A. Ce qui nous a fait rêver On avait commencé avant que les Iraniens ne rentrent.
Les trois assez.
Gaglo, Atina Gaglo, et Mouville Costaud, ces histoires-là. Mais c'est le Togo qui avait commencé dans les années 80.
Ils étaient beaucoup plus dans le théâtre.
Dans le théâtre, mais théâtre de rue, et qui est transformé en film.
En film, ouais.
Mais c'est ce que les Ivoiriens font de mieux, les Burkinabés, sans parler des Sénégalais aujourd'hui, qui font de bonnes productions, des productions de facture. De bonnes factures. Mais le pays invité, le Niger, qu'est-ce que le Niger a de plus que le Togo en matière de production cinématographique? Je n'en vois pas. On aurait pu inviter le Ghana, on aurait pu inviter le Nigeria, on aurait pu inviter, si on pourrait parler de pays francophones, on aurait pu inviter la Côte d'Ivoire, le Sénégal aujourd'hui, qui fait des émules.
Merci, nous vivrons cette édition de l'intérieur. Ce sera du 22 au 29 juillet prochain. Et je suis tombé sur une information dédicace d'un livre. Le livre s'appelle « Du village à la table des rois ». Son auteur, c'est le compatriote Christian Enyonam Foli Kossi. Et ce livre de 320 pages est en fait une narration détaillée de l'odyssée de l'auteur à travers l'Afrique et le Togo sur près de 50 ans, des souvenirs de la période de la lutte pour l'indépendance du Togo ainsi que les souvenirs plus récents de la conférence nationale souveraine et du début des années 90 au Togo, mais également des souvenirs et des expériences de plus de 45 ans à travers toute l'Afrique. Le Ghana, la Haute-Volta devenue Burkina Faso, le Zimbabwe, la Libye, la Côte d'Ivoire. La dédicace sera à la présidence de l'Université de Lomé le 30 juin 2023. Ce déplacement vaut peut-être la peine.
Je peux te poser une question.
Vas-y.
Ce livre a été édité par quelle maison d'édition?
Je n'ai pas encore disons, l'édition, mais comme j'ai confirmation que la dédicace sera à la présidence de l'Université de Lomé.
Ouais, j'ai posé la question parce que au cours du Festilar, le 20 juin dernier, il y a eu un diagnostic de l'édition au Togo. Et professeur Togwata, Pédouama et Ananiso et le directeur de la maison du livre, Amad Arome, ont fait une critique très acerbe de l'édition au Togo. Aujourd'hui, tout le monde peut écrire. Mais les maisons d'édition qui éditent ces romans, ces livres, ces poésies, ces poèmes et tout ça, n'ont pas une équipe.
Pour la relecture.
Pour la relecture et la mise en forme linguistique de ces ouvrages-là. Et donc, vous savez, il y a Sami Tchak qui a écrit déjà sur sa page Facebook, et qui a fait également la même critique sur l'écriture littéraire au Togo et en Afrique. Et donc, je crois que c'est une suite logique. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, c'est vrai, on veut avoir beaucoup d'écrivains, mais est-ce que tout ce que l'on écrit est réellement littérature?
Le maître mot de l'édition aujourd'hui, c'est la critique. Critique à l'endroit des sujets de justice, la critique à l'endroit du nouvel habillage, du nouveau logo de la TVT, la critique au niveau de la Semaine nationale du cinéma, la critique également à l'endroit des maisons d'édition.
Maintenant, on va bonifier les gens.
Sûrement, si on continue, il y aura même la critique même du journalisme, la critique même du club de la presse. Tout ça, c'est pour nous faire avancer. Mais continuons quand même avec cette exposition que le compatriote Confiteor Dessous fait depuis quelques jours à l'Institut français du Togo. Il s'agit de deux statues géantes, l'une tenant une calebasse, signe du savoir africain, et l'autre tenant un clavier, signe du savoir européen. Le thème, c'est le débat Europe-Afrique. Doit-on aller à une scission entre l'Europe et l'Afrique? Est-ce que nous avons suffisamment profité mutuellement les uns des autres avant d'arriver à une séparation? C'est le thème de cette exposition. Hein, j'avoue que je n'ai pas encore vu les deux statues, mais c'est le confrère La Manchette qui nous en parle
pour
à l'œuvre, page
2. Pour l'œuvre, on aurait pu comparer le clavier au balafon ou à la coura. Mais choisir. Avec Calebas, c'est ça.
Il faut choisir quelque chose.
Non, avec balafon serait mieux. Parce que balafon, c'est notre clavier traditionnel.
Ouais. Mais la calebasse, on joue avec aussi. Hein.
Non, ça c'est la rythmique.
Oui, ça, ce que moi je vais plutôt dire par rapport à cette comparaison entre l'Afrique et l'Europe. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que les pays européens sont très avancés parce que nous sommes en voie de sous-développement. Et donc, quand on veut faire une comparaison, qu'est-ce qui joue en faveur de ceux-là qui se développent pendant que nous traînons encore?
C'est la communication. Ils communiquent plus sur ce qu'ils font.
Et, en tout cas, non seulement ça,
oui.
Quand vous regardez, nous dansons. Hein?
Oui.
Nous savons danser. Et donc, quand on veut mettre un instrument de musique pour faire la comparaison.
Ah, attention, là tu relances le débat. Larry Tchèque l'avait dit.
Mon balafon est devenu un piano.
En tout cas,
justement.
C'est,
ma coura est devenue une guitare.
Vous savez, c'est confiné au-dessous. Lui, il a dit son angle.
Oui.
Chacun peut exposer son point de vue, mais l'essentiel, c'est que c'est le débat. Aujourd'hui, est-ce que l'Afrique et l'Europe peuvent et doivent continuer à évoluer ensemble, ou bien est-ce qu'on doit arriver à une scission? Si oui, quelles en seraient les conséquences?
L'Europe a tout pris de nous.
L'artiste
l'a aménagé.
Chacun a son avis là-dessus.
Oui. L'Europe a tout pris de nous.
Oui.
Et l'a aménagé.
Oui,
et l'a emballé. Et nous le revendons aujourd'hui.
On peut nous dire que si l'Europe a pris de nous, c'est que nous avons abandonné. C'est que nous nous sommes abandonnés.
C'est ce que
le débat est ouvert. Maintenant, l'agriculture togolaise. Il y a les ambitions que fixent les gouvernants, dont le chef de l'État, mais il y a également les réalités. Revue de presse avec l'éveil de la nation qui met à sa manchette que Faure Gnassingbé a effectué une descente à la zone agricole aménagée privilégiée d'Agneron. C'est une localité de la préfecture de l'Avé. L'Union aussi nous en parle. Admiration aux producteurs agricoles de la ZAP d'Agneron. Faure Gnassingbé qui a effectué une visite surprise à cette coopérative et que le médium lui aussi écrit que la ZAP d'Agneron a séduit Faure Gnassingbé. Ça, c'est
L'endroit.
Encore un côté
l'envers.
De l'endroit.
L'envers.
C'est l'aménagement des terres agricoles de la plaine de Loti. Et c'est l'Union qui nous en parle. Lancement des activités dans les zones 4 et 5 du projet.
Ça, c'est l'endroit.
Il s'agit de l'axe 4 de la feuille de route du gouvernement sur la période 2020-2025. Et le projet d'aménagement des terres agricoles de la plaine de Loti est découpé en 6 zones. Le lancement vient d'être fait dans 2 zones. Maintenant, allons un peu vers
L'envers.
Avec La Manchette. Qui nous parle de la filière cotonnière au Togo. Olam, NSCT, de Malampi. L'article dit que privatisé en 2020 par l'entrée du groupe singapourien Olam à hauteur de 51% du capital, la nouvelle société cotonnière du Togo bat sérieusement de l'aile. Les productions du coton qui chutent. Dernièrement, on a choisi une tactique de primer. Les meilleurs producteurs. Et puis hier, je n'en revenais pas, une dame qui a été primée dans le moyen mono parce qu'elle arrive à produire une tonne d'œufs à l'hectare. C'est tellement ridicule. Si c'est ça qu'on prime, alors imaginons un peu ce que les autres arrivent à produire. Le second article de La Manchette, c'est le plan filière soja. Et l'article dit de l'indifférence aux faux fuyants de l'État. L'État qui ambitionne de booster la production du soja à 500 000 tonnes d'ici quelques années, mais au même moment, hein, les plaintes de la filière sont laissées sans aucun soin. On veut porter la production du soja à 500 000 tonnes, mais on n'arrive pas à trouver preneur pour les 80 000 tonnes que nous avons aujourd'hui. Voilà les ambitions telles que le chef de l'État vient les nourrir au jour le jour, mais les réalités. Isidore ?
Ah oui, j'ai toujours dit que bon, il y a l'ambition, mais il faut aussi il y a des intentions, il faut que les actes suivent les intentions. C'est ça qu'on appelle ambition. Parce que une ambition, c'est avant tout une idée, mais il faut la réaliser. Et là, vous atteignez vos objectifs. Tout ce que le président a fait, c'est de très belles intentions. Et hein, qu'on n'a pas les
faux pattes. Les forums des producteurs agricoles du Togo.
Les apps qu'on installe un peu partout, quels en sont les résultats? C'est la question que nous devons nous poser. Avant d'aller aux
agropoles.
D'aller aux agropoles, les apps sont des mini-structures des agropoles. Les apps, les zones aménagées.
Les zones d'aménagement agricole
planifiées.
Planifiées.
Oui, oui. Et qu'est-ce qu'ils donnent comme résultat? Ça fait pratiquement 2 ans sur le Mambus que ces apps ont commencé. Qu'on nous dise que les apps de telle région a pu produire telle chose qui a été transformée, puisque nous sommes dans cette logique de transformation. Et non de vente à l'état brut de nos produits. Mais qu'est-ce qu'on a pu faire avec l'industrialisation de l'agricole, de l'agriculture? C'est ça le problème auquel nous sommes confrontés. Premièrement, on a beau initier des projets, mais si ces projets sont mort-nés, je ne sais
quel résultat nous aurons. Justement, d'après ce que j'ai pu suivre, d'après ce que les confrères ont écrit de la visite de Fornia Singbe à Agneron, Fornia Singbe a pu discuter avec les producteurs. Il aurait reconnu que nombre des ZAP connaîtraient des problèmes. C'est pourquoi il a choisi la ZAP d'Agneron qui serait dans le peloton de terre. Ça veut dire que Fornia Singbe, il doit savoir. Et il sait que nombre de ces projets n'ont pas toujours un bon sort.
Oui, ce que je salue de ça, il paraît que c'était une visite inopinée. C'est comme ça qu'il faut faire.
Oui,
je salue si c'était vraiment inopiné.
Il faut dire à la cellule de communication du chef de l'État que plus rien n'est caché aujourd'hui. c'était une visite inopinée, certes.
Là, bravo.
Mais dès qu'il est arrivé sur le terrain, il a prononcé ses premières phrases. Tout de suite, on a eu l'information.
Jusqu'à nous.
Oui, mais
qui est bien le même ici.
Mais j'avoue que là, ce qu'ils ont réussi, c'est qu'on n'a pas pu avoir des images. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on n'a pas pu avoir des images, mais on a eu quand même les sons de ce qu'il a dit. Et c'est là où je rejoins SAS.
Attention, les visites ne sont pas des visites en cachette. C'est que vous surprenez les gens. Oui. Ça peut être médiatisé.
Non, justement, ça n'a pas été médiatisé.
Laissons la forme. Venons au fond de ce que Fornia Singbe a pu dire avec les producteurs d'Agneron.
Il a reconnu que il y a au total aujourd'hui 124 ZAP qui ont été installés sur les 400 prévus. Et donc, parmi ces 124 ZAP, il y a beaucoup qui ne marchent pas.
Et il le sait lui-même.
Il a reconnu, c'est lui qui l'a dit. Et il dit que lorsqu'il a vu les images de la ZAP d'Agneron, parce qu'il a demandé qu'on lui fasse l'état des lieux de l'ensemble des ZAP installés, et quand il a vu les images de la ZAP d'Agneron, il s'est dit tout de suite, il faut que je rende visite à cette coopérative pour voir ce qu'ils sont en train de faire là et pourquoi ça marche. Et pourquoi de l'autre côté, dans les autres ZAP, ça ne marche pas. Et donc, il leur a dit, je vous ai rendu visite pour que vous serviez d'exemple aux autres. Et il a touché du doigt un problème très crucial dans cette ZAP-là. C'est qu'en réalité, les ZAP qui ne marchent pas, celles qui ne marchent pas, c'est parce qu'il y a une mauvaise organisation des producteurs. Des coopératives qui gèrent ces ZAP. Et il dit, vous êtes bien organisés. J'avoue que ce que je suis en train de voir, parce que quand il est arrivé, il paraît qu'il est allé dans les champs. ils ne pouvaient même pas regarder ce qu'il y a en dehors des je peux appeler ça la brousse de maïs. Mm-hmm. Le grand champ de maïs qu'il avait en face de lui ne lui permettait même pas de voir ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les autres cultures qui sont faites. Et donc, c'est quand il est arrivé et les paysans ont commencé par le toucher et ils discutaient avec eux que certains sont allés chercher dans des paniers des tomates, de l'arachide, du piment vert et tout ça pour montrer qu'ils font toute cette culture-là dans cette ZAP. Et donc, je crois que nous, ce qui nous a intéressé, c'est le fait de visiter cette ZAP-là pour qu'elle serve d'exemple aux autres. Mmh. Et je crois que les services du ministère de l'Agriculture doivent forcément essayer de voir avec les autres ZAP qui ne marchent pas pour changer un peu les choses.
Je dirais mieux, le ministre de l'Agriculture est interpellé. Si c'est le président de la République qui ira faire ses visites et constater de visu ce qui se passe, alors le ministre est défaillant. C'est à lui de prendre ses responsabilités.
Mais qui a rendu compte?
Non, peu importe, il ne suffit pas de rendre compte. Il est là pour ce travail. S'il a rendu compte, je pense que bon, il a rendu compte de ça et ça a plu au président qui allait voir si c'est ce qu'il dit est vrai. Donc ça veut dire que quelque part il y a un problème.
Il y a des problèmes et même à Agneron, les producteurs, le chef d'État avait constaté là également il y a des besoins.
Les producteurs ont
exposé directement, notamment le désenclavement, piste. De la ZAP jusqu'à la route nationale qui est difficilement praticable.
Ça veut dire que si...
Je ne sais pas si le chef de l'État a fait le voyage en voiture ou bien en hélicoptère.
N'en sais rien.
On aurait dû chercher à savoir. Parce que des fois il faut qu'il prenne la route. Il faut qu'il prenne la route des fois pour vivre en quelques minutes notre quotidien du 1er janvier au 31 décembre. Ça aussi, c'est important.
Ce que j'ai appris hier, c'est que après la pause de la première Pierre du centre de mécanisation de Palimé, là,
à
Tové, il a voulu passer par cette ZAP.
Et alors
La nuit. Puis les conditions climatiques, je crois, ça a fait
Mais ses compatriotes sont dans la nuit et dans les conditions climatiques.
Mais c'est le chef de l'État.
Merci beaucoup. Il est midi, passé de 2 minutes. Voilà ce dont nous avons pu débattre, les huissiers de justice, le nouvel habillage, le nouveau logo de la TVT, la Semaine nationale du cinéma, notre page culturelle traditionnelle, et puis l'agriculture togolaise entre ambition et réalité. 93.5. À présent, nous nous branchons sur vous. Vous composez le 22, 21, 31, 74 ou le 91. 36, 63, 75, et vous nous faites revisiter l'un ou l'autre sujet débattu, soit des questions ou des commentaires. Déjà, le premier auditeur, bonjour.
Oui, monsieur Sass, bonjour.
Oui.
Je suis à la place du président. À mon retour, je prends une décision.
Laquelle?
Je rattache ce ministère à la présidence. C'est le ministre qui devait rendre compte au président.
Ok. Bon, heureusement, vous êtes aujourd'hui Sylvain Agbayi.
Oui,
on verra ce que vous ferez quand vous serez président de la République. Je vous rappelle que le prochain rendez-vous, c'est en 2025.
Je suis déjà candidat.
Ah bon?
Oui.
Ok. Nous le constaterons en temps opportun. Merci à Sylvain Agbayi qui passe le témoin au suivant. Bonjour.
Bonjour.
Oui.
Je suis Paul.
Pardon?
Paul.
Paul, vous nous appelez de...
J'appelle du centre-ville.
Oui, quel quartier?
Là où il y a les services.
Ok, allez-y.
Le quartier administratif, je veux dire.
Oui, allez-y, Paul.
Oui, je veux intervenir sur la semaine du cinéma et la TVT. Mm-hmm. Oui. Bon, moi, je pense que parfois, on va chercher les solutions en aval au lieu de les chercher en amont. J'ai écouté votre confrère Eric Johnson demander si le cinéma togolais est exportable. Moi, je me demande, est-ce qu'il est consommable d'abord? Parce que aujourd'hui, c'est vrai, le numérique nous offre une opportunité pour développer notre potentiel, mais la formation manque. Donc, je pense que l'État gagnerait à faire de la formation réellement à la base pour que nous ayons des acteurs formés, nous ayons des personnes qui sont capables d'écrire des dialogues, des scénarios qui vont nous captiver et former aussi ceux qui vont travailler avec les outils du numérique. Sur la TVT, j'ai juste un petit commentaire. Monsieur Sass, vous êtes un communicateur. Faut pas que les gens pensent qu'on peut communiquer pour vendre un mauvais produit. Donc, habiller la TVT, c'est peut-être bon, mais je pense qu'on aurait dû commencer par changer beaucoup de choses au niveau des contenus, au niveau de la formation des techniciens, des journalistes et tout ça, avant de venir au logo. Parce que nous avons étudié que lorsqu'on veut changer l'identité d'une entreprise, il faut d'abord commencer par le contenu. Et à la fin, on travaille sur l'image.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Paul, c'est votre premier passage. Je peux vous dire que j'ai
apprécié. Oui, c'est mon premier passage, monsieur Sass.
Et vous nous rappelez qu'il faut soigner les problèmes, il faut plutôt soigner les pathologies que d'aller s'occuper des séquelles.
Oui, parce que on peut faire de la chirurgie plastique, mais quand l'intérieur est pourri, c'est pourri, hein.
Merci, merci. C'est noté, Paul. Je parie que vous serez plus régulier. Le suivant maintenant, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Les Africains dansent. Est-ce vrai? Il y a des vidéos ces derniers temps, il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux qui nous font la comparaison entre l'évolution des Occidentaux en nous dit, et en Afrique, on nous dit qu'on ne fait que danser. Moi, je suis contre ça. Ça, c'est des vidéos qui polluent notre mentalité.
Mm-hmm.
Ça, c'est ce que vous êtes en train de faire au studio là-bas. Je ne sais pas si c'est une danse. Comment on peut dire que les Africains ne font que danser? Les Européens ne dansent pas. La musique, c'est autre chose. On ne peut pas comparer la musique avec les innovations. En Afrique, il n'y a pas d'innovation. Il y a des Africains sur les mêmes réseaux sociaux. On montre des Africains qui fabriquent des smartphones. Il y a un Togolais un jeune Togolais qui essaie de fabriquer des véhicules des motorisés, des voitures.
Et justement, est-ce que vous roulez à bord de ces véhicules?
Non, il ne reste que ce jeune soit appuyé.
Très bien, ce sera voilà, le problème.
Si l'Afrique ne volue pas, ce n'est pas parce que les jeunes dansent, c'est parce que les pouvoirs publics, nos dirigeants n'ont aucune vision. Donc ces vidéos, c'est n'importe quoi. Qu'on dise que les Africains ne font que danser, c'est n'importe quoi.
C'est votre avis là-dessus, mais vous comprenez que beaucoup d'autres trouvent quand même que les Africains vont beaucoup plus dans l'ombre hein, et abandonnent souvent la proie. Mais avançons.
Ok. La TVT.
C'est Johannes.
Oui, c'est Johannes. Okay. La TVT. Oui. C'est vrai, l'auditeur qui vient de me céder a dit ça ne servait à rien de dire qu'on lance un concours. La TVT a beaucoup de choses à faire. C'est que de dire on paie 2 millions pour un logo. Pour le logo, je ne trouve pas quelque chose à redire, mais c'est dit qu'on paie 2 millions pour ça, c'est effrayant. Les 2 millions peuvent servir peut-être même à acheter une caméra à la TVT qui en a besoin.
Merci.
Le logo, oui. Disons-nous que le logo n'a pas forcément besoin d'être extraordinaire. L'essentiel pour les logos des chaînes de télé, je ne sais pas, vous voyez là, le logo de RFI, le logo de TV5 Monde, ça n'a rien d'extraordinaire. L'essentiel, c'est que les lettres soient visibles. Un logo, ce n'est pas le logo de comme Togo, comme tout ça là, ça doit avoir quelque chose de joli, tout ça. L'essentiel, c'est que les lettres soient visibles lorsque quelqu'un capte la chaîne. Donc, je me dis, même que ceux qui font la conception à la TVT même auraient pu concevoir un logo sans forcément qu'on ait besoin de lancer un concours pour payer 2 millions. Donc, le logo, moi, je ne trouve rien à dire, c'est mieux.
Merci, voilà. Johannes. Il faut quand même encourager la compétition, la créativité. Merci, Johannes. Le suivant, bonjour.
Mon directeur, bonjour.
Ah, Papa Sibidi.
Bonjour, tout le plateau.
Tout le plateau vous répond, Papa Sibidi.
Merci beaucoup. Vous savez, pour les cinéastes, il faut qu'ils se réveillent. Il faut que le ministère aussi crée une cellule pour ce travail. Le cinéma... Pas le monsieur Bédou, personne n'a été directeur. Il n'y a pas de choses, c'est les actualités togolaises. Et après, il y a eu d'autres coups qui étaient dedans avec le centre culturel français. Maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, pour les logos, vous savez, Picasso, ben, comme c'est un Togolais, on trouve que c'est fait. Ben, si c'est venu de Paris ou bien d'Amérique, on va taxer 60 millions. Les Togolais ne diront rien. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Sébiti. Le suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui.
C'est Commis.
Commis.
S'il vous plaît, il y a les invités.
Ils sont là.
Ah, merci beaucoup. Vous avez dit dans vos interventions que vous êtes proche de la population. Cette proximité-là, est-ce que cela s'explique avec les bulldozers, la présence des bulldozers et des forces de l'ordre à vos côtés, exécutant des actes iniques? Est-ce que c'est de cela que vous parlez, que vous êtes proche de nous? Deuxième préoccupation, vous avez dit dans les qualifications, bien dans les compétences de ceux qui doivent être huissiers, il y a une question de bonne moralité. À quel niveau la bonne moralité intervient? Et au moment où il faut exécuter des actes, est-ce que vous pouvez à ce niveau questionner aussi cette compétence de la bonne moralité pour ce qui se fait sur le terrain? Mm-hmm. Et pour finir sur vos questions, à quel niveau vous vous retrouvez dans les problèmes dans les problèmes fonciers? Ok. Mais maintenant sur les émissions, moi j'aimerais interpeller votre direction de Canal FM de tout faire. Je sais que le président de la République est très occupé, mais quand il sonne 11 heures, il n'a qu'à capter le 93.5. Parce que vous en dites beaucoup de choses et qu'il ne faille pas pendant plusieurs années qu'il s'en rende compte de la réalité. La question de Zap, je me suis resté un peu triste que vous ayez fait une programmation de 400 Zap. On n'a que exécuté 100. Vous êtes passé visiter une seule Zap et vous vous étonnez que pendant 15 ans, vous n'avez rien fait. Et c'est-à-dire, M. Sass, je n'arrive pas à accepter ça. Que pendant 15 ans, un président de la République n'ait pas le temps minimum de sanctionner, de punir, de corriger, et qu'à ce jour, on puisse constater les fruits de ces apps-là, et c'est maintenant qu'ils s'en rendent compte que nous sommes perdus. Alors, quelle est l'utilité de l'élection de 2020? Merci. Quelle est l'utilité de son programme de 2020?
Merci. Merci, ce n'est pas si pessimiste que ça. Personne n'a dit que nous sommes perdus, il y a des problèmes, mais nous nous en rendons compte et nous nous engageons au fur et à mesure à les résoudre. Il est 12h17 minutes. Nous allons suspendre les questions là pour laisser le temps à nos invités de répondre et à nous-mêmes de faire le point. Eh bien, les maîtres Amédroé et Ligbezim, vous avez écouté les interventions à votre endroit. D'abord, la proximité avec les populations. Alors que vous intervenez sur le terrain avec des soldats, avec des bulldozers pour exécuter les actes. Qui prend?
Oui,
Maître Amédroé.
Oui, merci beaucoup, Monsieur Sass. Pour donner une réponse à notre auditeur, je dirais qu'effectivement, le juriste, l'huissier de justice est le juriste de proximité, tout simplement parce que il est au début de toute procédure. Si vous approchez l'huissier, il vous donnera tous les conseils, il vous guidera, il vous donnera des conseils pour protéger vos intérêts, il vous dira s'il faut saisir la justice ou bien s'il faut vous aider à répondre immédiatement à votre inquiétude. Et s'il faut accéder ou bien il faut s'adresser à la justice, il vous dira à tel niveau où nous sommes, on ne peut plus, le problème ne peut pas être réglé à notre niveau. Il vous conseillera plutôt d'aller devant les tribunaux et de prendre un avocat ou bien vous guidera vers un notaire. C'est pour cela qu'on dit qu'il est plus proche de la population pour le conseiller, le guider et l'aider à régler ou bien à protéger ses intérêts. Et maintenant, par rapport à la moralité,
D'abord, à l'exécution, quand vous faites accompagner des policiers, gendarmes
pour
et plus,
et
surtout avec des bulldozers, des fois même, on voit des gros bras hein, aux côtés de certains de vos confrères.
Effectivement. Par rapport à la réquisition, je dirais que l'huissier de justice intervient pour exécuter une décision de justice. L'exécution, en principe, relève de l'exécutif qu'il confère en partie ce pouvoir à l'huissier d'aller exécuter sur le terrain. Il faut comprendre aussi que l'huissier ne peut pas se lever de lui-même et aller exécuter une décision. Mais s'il y a des inquiétudes, des soucis de sécurité sur le terrain, l'huissier doit avoir une réquisition et se faire assister des forces de l'ordre et pas des gros bras, des forces de l'ordre. Là, vous adressez une réquisition au procureur qui analyse, étudie le dossier et vous donnera les consignes qu'il faut pour vous accompagner à pouvoir exécuter cette décision de justice, et l'exécution est bien encadrée par l'autorité.
Ça, c'est la théorie. Avançons rapidement avec la bonne moralité dont vous nous avez parlé et sur lesquelles nombre de Togolais sont assez circonspects. Maître Légozine.
Voilà, donc comme la consoeur le disait, comme la consoeur le disait si bien, l'huissier de justice, ce qui exécute une décision de justice, c'est dans ses attributions. Hein, c'est dans ses attributions. Il ne le fait pas de lui-même, il le fait parce qu'il a été requis à cette idée. Une décision qui n'est pas exécutée, le droit n'est pas dit. Le droit n'est pas dit. Donc, une décision qui n'est pas exécutée. Parce que peut-être l'auditeur, lui, se met de la place de la victime. Mais celui qui est l'auteur des droits à préserver, lui dira, mais allez-y, maître, allez-y exécuter ma décision. Je l'ai. La preuve, le confrère Isidore a fait une plainte qui est restée lettre morte. Mais il se plaint, c'est la même chose. Donc quand il parle de moralité, avant, nous parlions de moralité, avant d'être huissier, il faut qu'on fasse sur vous une enquête de moralité. C'est de ça que nous parlons. Mais l'huissier qui exécute une décision de justice, cela ne veut pas dire qu'il n'ait pas de bonne moralité. Parce qu'il est en train de satisfaire à une des obligations légales.
Merci. Dernière question. À quel niveau intervenez-vous comme huissier de justice dans
le foncier?
Oui, dans les litiges fonciers, même en amont de tout litige, nous intervenons. Par exemple, nous faisons des assignations pour introduire une instance. Lorsqu'il y a des litiges sur un terrain, déjà quelqu'un réclame que ce terrain que vous estimez être le vôtre est le mien. Donc vous faites une assignation pour envoyer l'affaire à la justice. Il y a aussi des cessations des travaux. Lorsque quelqu'un est en train de faire des travaux et que vous voulez faire cesser les travaux, vous pouvez voir un huissier. Lorsque la décision maintenant est rendue et que le droit revient à une des parties au procès, c'est à l'huissier de replacer le vrai titulaire de l'immeuble dans ses droits.
Merci. Avant vos mots de conclusion, Isidore et Eric, une minute à chacun. Pour peut-être répondre à un auditeur, préciser une pensée ou bien attribuer votre carton de fin d'émission. Isidore ?
Non, je n'ai pas de carton, sauf que au niveau des actes, il va falloir y revenir parce que les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous. Et nous voulons voir les produits de nos actes hein, dans nos marchés et dans nos marmites. Ça tarde à venir, il va falloir que l'exécutif ou l'autorité. C'est là où j'interpelle le président de la République, puisqu'il remontait les bretelles au ministre de l'Agriculture pour qu'il fasse bien son travail. Parce que c'est des milliards qu'on a investis
dans
les ZAP. Et c'est des prêts que peut-être on a hypothéqué l'avenir, notre avenir, mais l'avenir de nos progénitures, de nos enfants. Donc, il ne faudrait pas que ce soit des éléphants blancs qu'on avait connu. Aujourd'hui, il faut sortir de là.
Merci. Eric ?
Ouais, je crois que notre ami Johannes, il attend toujours que je dise quelque chose. C'est fait exprès quand j'ai dit que les Africains dansent. Aujourd'hui, lui, il dit que les Africains ne dansent pas. Mais quand il s'agissait de parler de l'animation, des mouvements d'ensemble et tout ça, il dit que non, au lieu que les gens aillent travailler, on les faisait danser. Donc, vous voyez un peu, bon, c'est pas grave. Mais je voudrais corriger rapidement, j'avais dit combien de ZAP déjà installés. Je crois que c'est 210 ZAP qui sont installés
sur
les 400 prévus. Mm-hmm. Bon, c'est vrai que nous tous, nous étions, peut-être il y en a qui n'ont pas pu assister à ces fora sur l'agriculture, mais je pense que définitivement, le chef de l'État est tourné vers... une productivité agricole, d'autosuffisance alimentaire et après de transformation. Mais tous ces projets-là qui sont engagés, il faut que ces projets-là aboutissent. Comme le disait tantôt Isidore, c'est beaucoup d'argent qui ont été investis. Il faut que ceux qui sont responsables des projets et responsables sectoriels au niveau du ministère de l'Agriculture fassent leur travail pour que nous ayons véritablement des résultats. Aujourd'hui, avec tout ça, on ne peut plus parler de famine ou d'insuffisance alimentaire au Togo. Ce n'est plus normal. Avec autant de milliards investis, je demande à tous ceux-là de faire leur travail pour que nous puissions
merci
avancer
beaucoup,
en termes d'agriculture.
Maître Félix Legbezim, à la fin de cette émission, et avant que vous alliez à votre journée internationale, votre conclusion.
Et je voudrais saisir de cette occasion pour dire merci au directeur de Canal FM qui nous reçoit, à vous aussi, journalistes, qui co-anime l'émission avec nous et vous dit toute notre reconnaissance, toute notre gratitude pour ce que vous êtes en train déjà de faire et pour sortir de l'huissier de sa mauvaise image. Et je voudrais dire que l'huissier dans son rôle préserve, garantit la paix sociale. Il est un élément de l'état de droit et il est aussi un acteur économique. Parce que pour investir dans un pays, on tient compte des performances, des droits de l'exécution. Mm-hmm. Et par conséquent, compte tenu de toutes ces actions-là que l'UCE joue, il faut que l'État nous donne les outils nécessaires. Et nous avons besoin de revisiter nos tests. Nous avons des tests que nous avons déposés qui doivent être votés pour que nous ayons les outils nécessaires. Et à la population, nous demandons un peu de clémence qu'elles nous reçoivent lorsque nous sommes là.
Donc, en sorte, deux plaidoyers. Le premier à l'endroit de l'État, le second à l'endroit de la population.
Et enfin, à l'endroit des médias.
Clémence ou indulgence. Indulgence serait mieux.
Maître Amédro. Mes remerciements vont... Bon, je dirais les remerciements de toute la Chambre vont à notre ministre de tutelle, le garde des Sceaux, pour sa disponibilité et son accompagnement. Tout son personnel, ils sont disponibles et nous accompagnent pour soigner cette image de l'huissier. Les remerciements vont également au ministre de la Communication qui sera avec nous le 30 prochain à Anéro pour échanger et mener des réflexions par rapport à notre journée. Les remerciements également au directeur de Canal FM, à vous-même et à ceux qui ont animer l'émission avec vous et particulièrement à M. Eric pour lui dire que tous les médias sont invités le 30 à Anéro.
On attend vos engagements.
Pensez à des partenariats.
On attend leur engagement à faire les ménages en leur sein.
Oui.
Officiellement,
pour cette réunion. Aujourd'hui, demain, ce sera férié. Parce que c'est l'Aïd El Kébi ou la fête du mouton ou la tabassi. Nous allons communier avec nos confrères et nos amis auditeurs musulmans. Le club La Presse, nous nous retrouvons au plateau le jeudi prochain. Disons bonne fête à nous tous. Oui.